Europe Soir, Pierre de Villeneuve.
Bonsoir, bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver ce soir dans les débats d'Europe Soir sur le format de Punchline. Vous connaissez déjà la recette et celui qui fait l'actualité de ce vendredi, c'est un hashtag, le hashtag anti-2010, visiblement totalement arbitraire, totalement incompréhensible, venu de nulle part et surtout totalement haineux. Il vise tous les enfants, je dis bien tous les enfants nés en 2010, qu'ils soient petits, grands, filles, garçons, peu importe, le seul critère, c'est cette année de naissance, l'année 2010. Et aujourd'hui, eh bien, ces enfants de 11 ans sont harcelés. Ils subissent des brimades, des menaces, des appels à la violence, le tout sur les réseaux sociaux, pas que. Certains se font tabasser. L'origine de tout cela se trouverait dans Fortnite, le jeu en ligne, et une chanson de Pink Lily. On va vous expliquer tout ça dans quelques instants. La réponse du gouvernement, elle s'est faite entendre par la voix de Jean-Michel Blanquer hier. Il y a un mouvement qui vise à embêter les élèves de 6e. C'est complètement stupide. Embêter, on va voir si le terme est le plus idoine. Marlène Schiappa, la ministre de la Citoyenneté, a rappelé que les appels à la haine sur les réseaux sociaux sont passibles de sanctions. La FCPE, de son côté, a condamné aussi. Comment faire pour stopper cette haine? Quelle réponse adéquate? Par quels acteurs politiques, judiciaires? On en parle avec mes invités dès le début de cette émission. 3000 soignants non vaccinés ont déjà été suspendus en France. Certes, c'est 0,1% du nombre total de soignants en France, mais in extenso, ce sont 3000 personnes à qui on a envie de demander pourquoi ils ne se sont pas fait vacciner devant le risque ravageur du virus du Covid. Ne serait-ce que pour leur santé, sans parler de la santé des autres aussi. Mais désormais, les soignants non vaccinés sont susceptibles de perdre leur job. Les soignants, pas de vaccin, plus de boulot. Sujet abordé dans la première heure également de débat. Après le journal de 19h, la France humilie. C'est la dernière sortie de Christiane Taubira. L'ancienne ministre répondait à une question d'auditeur sur France Inter, lui demandant pourquoi elle ne se lançait pas, pourquoi elle ne se présentait pas à la course à la présidentielle. C'est de là que ça part. Et ça finit sur le constat d'une France qui humilie les jeunes, qui empêche les enfants d'aller à la cantine quand les parents ne payent plus, qui demande à des lycéens de s'agenouiller, main sur la tête, référence à Mantes-la-Jolie fin 2018 en marge de manifestations lycéennes. Tranquillement, dit Christiane Taubira. De même que tranquillement, dit-elle, on laisse, selon elle, Éric Zemmour s'exprimer, tenir des meetings sans le marginaliser. Que pensez-vous de cette sortie de Christiane Taubira? Est-ce une lanceuse d'alerte? Au contraire, est-ce de la critique infondée? On en parle, de même qu'Éric Zemmour, qu'elle cite justement, puisqu'Éric Zemmour est en campagne. Après un livre qui cartonne, une interview dans Le Point, le voilà à Toulon. Oui, on peut appeler cela un premier meeting, en tout cas, ça en prend toutes les proportions. Nous y serons, nous entendrons les premières déclarations et nous tenterons d'y voir plus clair au fur et à mesure que cette réunion publique avance dans la soirée de tous ces sujets. On en parle dans Europe Soir avec Amine El-Khatmi, bonsoir.
Bonsoir.
Président du Printemps Républicain avec Razi Hammadi, bonsoir.
Bonsoir.
Ancien député socialiste, directeur général de New Stank Cities. Ça fait beaucoup de mots anglais. Haussmann, mais il est bilingue, hein. Il est bilingue, Razi Hammadi, c'est pour ça.
Bah, traduit en français, ça ferait info, stock, information de ville. C'est là que c'est compliqué.
La prochaine fois, je vous le sors comme ça. Ça se trouve, j'aurai plus de facilité. On en parle avec Haussmann Nasrou, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vice-président de Libre, vous êtes également deuxième vice-président de la région Île-de-France. Et Anne Jeanneté, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député LREM des Français de l'étranger, porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée nationale et médecin de formation. Après 19h, nous serons également avec le député MoDem des Yvelines, Bruno Millienne. Voilà pour le programme. Et en attendant, il est 18h sur Europe 1.
Europe Soir, 18h, 20h.
Pierre de Villeneuve.
Et c'est donc par ce sujet particulièrement préoccupant que je vous propose d'ouvrir nos débats d'Europe Soir. Un hashtag qui pollue la vie, un hashtag qui détruit à petit feu la vie d'enfants de 11 ans. Ce hashtag, il a un nom, anti-2010. Et les insultes, en voilà quelques-unes. Petit 2010 de merde, brigade contre les 2010. D'où vient toute cette haine, Thibaut Hue ?
Eh bien, tout est parti de Fortnite, un jeu vidéo très prisé des collégiens. Ils y font beaucoup de parties en ligne. Les plus anciens joueurs reprochent à ces enfants nés en 2010 de ne pas respecter les codes du jeu, alors que ce sont seulement leurs premières parties. Alors, la vague de haine s'est ensuite propagée hein, sur le réseau social TikTok. On peut lire des messages de violence, d'humiliation. Et ce qui a vraiment mis le feu aux poudres, c'est une chanson sur YouTube de l'une de ces enfants nés en 2010, perçue comme de la provocation. Et maintenant, le phénomène dépasse Internet. Hein, des élèves de 6e sont victimes de rejets, de remarques de la part d'adolescents plus vieux. C'est ce que raconte cette maman d'un petit garçon qui a fait sa rentrée au collège.
C'est des petites vannes blessantes, c'est jamais très bienveillant, c'est un peu désobligeant. C'est t'es de 2010, donc c'est au sport, c'est à l'arrêt de bus en bas du collège. Ah, toi, t'es en 2010, t'es bien pourri. Enfin, le premier truc qu'on lui demande, c'est quelle année tu es. Mais du coup, il s'interroge sur pourquoi les 2010 et pas les autres. Mais du coup, ça le travaille. C'est vrai qu'on en parle quasiment tous les jours, quoi.
Sur les réseaux sociaux, c'est au tour des parents de lever la voix. Certains rapportent que leurs enfants sont angoissés à l'idée de retourner en classe.
Voilà, et on sait que TikTok a retiré ce hashtag anti-2010. En tout cas, il y a eu des réactions en chaîne, celle de la FCPE qui est indignée. Il est inacceptable que des enfants soient victimes d'appels à la haine. Leur santé mentale et psychologique est en réel danger. La peur envahit leur quotidien pour aller à l'école ou pour rentrer chez eux. Le phénomène a largement dépassé les cours de récréation. C'est toujours la FCPE qui dit ça. C'est du cyberharcèlement, fermeté des parents d'élèves. Côté gouvernement, Marlène Schiappa a aujourd'hui haussé le ton.
Le harcèlement anti-2010 atteint des sommets dans l'absurdité de la méthode. Le cyberharcèlement, c'est un délit. On a fait voter une loi en 2018, qui est la loi dite loi Schiappa, contre le cyberharcèlement en meute. Le fait de retweeter ou de liker des messages de haine sur les réseaux sociaux est passible d'amende et de prison. Dernier message, je voudrais appeler Twitter et les réseaux sociaux à prendre leurs responsabilités, parce que si le cyberharcèlement est possible, c'est parce que les messages ne sont pas supprimés en temps et en heure. Et donc j'invite les réseaux sociaux à plus de diligence et plus de rapidité pour mieux protéger les petits.
Voilà, rappel des sanctions auxquelles les uns et les autres s'exposent. Je vous le disais, TikTok apparemment a retiré ce hashtag. Fermeté aussi, car hier, voilà ce que déclarait le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer.
Je vois qu'il y a un mouvement qui monte, qui consiste à mal accueillir les élèves de 6e. Et à embêter les élèves nés en 2010. C'est évidemment complètement stupide, c'est contraire à nos valeurs. Rappelez-vous, quand vous étiez 6e vous-même, c'était spécial d'arriver au collège et vous comptiez sur la bienveillance de tout le monde. Eh bien, soyez bienveillants à votre tour, soyez des ambassadeurs contre le harcèlement. Et c'est évidemment cela qui va l'emporter, les valeurs de fraternité et pas la bêtise.
Voilà, c'était une toute première réaction du gouvernement par l'intermédiaire de Jean-Michel Blanquer. Il y a pas mal de gens qui ont tiqué sur le mot « embêté ». C'est quand même un peu plus que ça, non, Anne-Gente?
Il est ministre de l'Éducation nationale. Il doit absolument choisir les termes qu'il emploie. Il est là pour protéger les élèves. Et moi, j'ai envie de dire, face à ce qu'il est en train de montrer...
C'est plus qu'embêté, vous
trouvez? Oui, pas mais il n'est pas là pour... Il n'a pas tous les faits, il n'a pas tous les détails. Quel mot fallait-il?
Il est prudent.
Il est prudent. Quel mot fallait-il employer? Un mot grossier, un mot vulgaire, dérangé, harcelé. Harcelé, c'est plutôt sur les réseaux sociaux. Harcelé à l'école, peut-être, il n'a pas tous les faits. Donc, il a pris ce mot très générique, peut-être qu'il peut paraître un peu faible. Il faut surtout retenir qu'il a pris le sujet à bras-le-corps, qu'il l'a tout de suite dénoncé. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire tous debout pour les 2010. C'est
d'accord,
ça qu'il faut dire.
D'accord, pas d'accord avec...
Évidemment, bien d'accord, parce que c'est vrai que pour ceux qui ne sont pas forcément habitués à, entre guillemets, ces mondes virtuels et qui disent « Oh, une insulte sur jeux vidéo », qui nous écoutent en ce moment, qui sont peut-être dans leur voiture, en train de préparer leur week-end, ils disent « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore? C'est pas sérieux !» Alors, deux minutes. Souvent, on reproche aux politiques, justement, de ne pas anticiper les crises qui viennent, et les malaises qui viennent, et d'être dans le contre-temps. Fortnite, c'est 350 millions de joueurs dans le monde. Le prochain grand projet industriel qui va transformer nos vies, ça s'appelle le métaverse. Le métaverse, c'est le monde virtuel, en 3D, c'est comme Facebook. D'ailleurs, Facebook porte ce sujet, sauf que vous allez être dedans. Les jeunes dont nous parlons...
C'est Matrix, quoi.
C'est Matrix. On a plusieurs millions, de 350 millions, plusieurs centaines de milliers, voire des millions de connexions jour en France. Donc, sur plusieurs heures, il y a le débat sur la pratique du jeu vidéo. Donc, on a des enfants qui sont dans un monde virtuel, mais c'est quand même eux, c'est physiquement eux qui sont atteints, c'est pas leur avatar virtuel seulement qui est insulté, c'est eux, et je crois que prendre à bras le corps le sujet, réagir, anticiper, me semble être pas seulement de bonne aloi, mais de la responsabilité des gouvernants, et je pense qu'ils ont raison de s'exprimer avec force.
Othmane Nassrou.
Moi, je suis vraiment stupéfait par toute cette histoire et surtout, j'ai envie de demander comment on en est arrivé là. Parce qu'il y a un moment où il faut quand même s'interroger sur comment on peut avoir une partie bien sûr, mais une partie quand même de nos jeunes, de nos adolescents, qui tombent dans cette agressivité gratuite, dans cette vacuité absolue sur des gens, sur des enfants plus jeunes qui sont nés une année particulière.
Il y a un phénomène de suivisme.
Oh ben, il y a un phénomène de suivisme, il y a un phénomène de paupérisation intellectuelle quand même. Il y a un moment, il faut le dire. Bien sûr qu'il y a un phénomène de protection face aux écrans, bien sûr qu'il y a un phénomène de cyberharcèlement. Et il faut être extrêmement vigilant sur toutes les formes de harcèlement à l'école. C'est un fléau, ça fait des ravages. Mais là, on assiste à un phénomène de masse, visiblement répandu sur les réseaux sociaux, qui quand même... On dit long sur ce que notre société est en train de devenir. Et pourtant, moi, je vous parle, je suis plutôt favorable au progrès, favorable aux réseaux sociaux, favorable au numérique. Mais on n'a pas su, visiblement, eh bien, garder notre jeunesse aussi avec des repères, lui donner aussi une forme d'encadrement qui fait qu'on ne mélange pas tout et qu'on ne tombe pas dans cet instinct grégaire et gratuit qui fait qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui rentrent en 6e qui sont insultés sans aucune raison valable.
On dit souvent d'ailleurs à propos de Mark Zuckerberg que son outil l'a dépassé lui-même, c'est-à-dire qu'il ne pensait pas que ça allait prendre des proportions telles. Amine El-Khatmi.
Oui, je partage tout ce qui vient d'être dit. Ça peut paraître comme ça un peu surréaliste où on se dit mais est-ce que c'est vraiment le rôle de ministre de prendre à bras le corps ces sujets, notamment le ministre de l'Éducation nationale. Mais ils ont raison de le faire parce qu'on a eu... plusieurs exemples, plusieurs affaires qui parfois se sont terminées dramatiquement, où ce qui se passait dans la sphère virtuelle, numérique, débordait dans la sphère réelle, entre guillemets, et où des gamins ont fini par... on se souvient de cette jeune fille qui a été jetée dans la Seine, alors que tout ça...
À Argenteuil.
Pardon, exactement. Et tout ça s'est fait où ? Sur Snapchat, sur... tu m'as envoyé le Snap, je t'ai répondu, tu m'as mal répondu, etc. Et on finit avec un drame. Donc il y a vraiment...
À l'époque, on disait, vous regardez trop la télé, et puis maintenant, c'est vous regardez trop les réseaux sociaux.
Un jour, on a dit, on a regardé trop la télé, puis après, on a dit, c'est la faute aux jeux vidéo, on se souvient, il y a eu des croisades anti-jeux vidéo, je me souviens notamment, lorsque Ségolène Royal était ministre de la Famille, elle expliquait que tout ça était la faute du jeu vidéo. Donc, je pense qu'on trouve des boucs émissaires.
Il y a toujours un fautif virtuel et numérique.
Oui, mais les ministres ont raison de s'emparer du sujet, parce que ça peut avoir des répercussions dans la vie réelle.
Évidemment, l'école ne peut pas tout, il y a plusieurs type d'éducation. Il y a l'éducation formelle, et il y a l'éducation parentale, l'éducation informelle aussi, mais bon, chacun doit jouer son rôle. C'est pas à l'école toute seule. Je veux dire, à partir du moment où un gamin est laissé à lui-même et passe 15 heures par jour devant un écran, à un moment donné, on peut demander des choses à l'éducation nationale, mais on peut pas lui demander tout.
On peut en demander aussi aux parents.
On peut en demander aussi aux parents. Quand on sait aujourd'hui...
Vous le dites sans le dire.
Je le dis. Moi, je dis aux parents, aujourd'hui, on a des études, le cerveau de votre enfant, il est structurellement modifié dans son développement avec des altérations pour la vie. Si vous le laissez trop tôt, très tôt, trop longtemps devant un écran.
C'est-à-dire vous êtes en train... 3 ans.
Donc pas d'écran avant 3 ans et encore avec parcimonie jusqu'à 5 ans. Donc vous lui bousillez le cerveau structurellement. Deuxième chose, par rapport à l'éducation nationale. Je sais que le ministre de l'Éducation se bat là-dessus. On a structurellement aussi des choses qui empêchent d'aller plus vite et plus fort. Quels sont les 3 gros enjeux qui aujourd'hui impactent nos sociétés ? La nourriture, comment on se nourrit, le sucre, l'obésité qui explose, c'est la question de la consommation. Quel est le deuxième domaine qui tape aujourd'hui le débat public de front ? C'est la question, évidemment, de l'information et la question des fake news, etc. Donc, consommation, information. Et le troisième, c'est communication. La communication, c'est les réseaux sociaux. La communication, c'est un savoir-être. On n'insulte pas. Et ça, malheureusement, lorsqu'on fait le triptyque, consommation, information, communication,
non, on n'y est pas.
C'est une matière et ce sont des contenus qui, à l'éducation nationale, restent des parents très pauvres des contenus.
Et pourtant, éducation à l'école, même si vous avez absolument raison, je vous rejoins,
député
à l'école,
LREM
ne
des
peut
Français
pas
de
tout.
L'étranger.
La part parentale est importante et moi, je vois quelle est la difficulté qu'on peut être comme parent aujourd'hui à élever ses enfants. Les difficultés, même simplement pour savoir faire, je pense que beaucoup de parents ont dû ressentir ça quand un enfant arrive, à le regarder, à dire maintenant comment je m'y prends. Et je regrette qu'il n'existe pas, qu'on n'ait pas réussi à inventer, moi je plaide pour cela, des sortes de maisons parentales, familiales où on puisse accompagner les parents, parce qu'avant qu'on arrive dans des grandes crises difficiles, il y a des petites crises. il y a des petits moments, un enfant qui s'accroche à son écran, comment je peux trouver les ressorts pour lui dire d'un coup de fouet, faut qu'on arrête, ça, c'est un petit peu trop. Il faut qu'il ait peut-être des personnes qui puissent échanger avec d'autres parents. Donc ces maisons parentales, on pourrait accompagner un parent dans l'éducation d'un enfant. Moi, je trouve que ça serait une avancée formidable. Non. À l'école, il y a quand même des choses qui ont été mises en place, mais ça prend du temps. Ça prend du temps pour que les différents acteurs se saisissent des outils. Il y a des outils de formation des enseignants, il y a des outils d'information des élèves, mais tout ceci prend du temps. Il y a des plateformes, il y a une plateforme sur le harcèlement en ligne, n'importe quel enfant peut y aller. Est-ce que c'est vraiment accessible? Moi, j'aimerais savoir s'il y a une évaluation qui a été faite. Vous dites
ça prend du temps, et en même temps, oui. Avec le temps, tout ce qui est numérique avance. C'est-à-dire qu'à chaque fois...
Le numérique va plus vite que notre pensée,
qui est là pour contrer justement le numérique, ou en tout cas l'encadrer, il y a un nouvel outil numérique qui apparaît. Donc comment est-ce qu'on fait? C'est quoi le mode d'emploi?
Le numérique va beaucoup plus vite que nous. C'est toute la difficulté du sujet, si on veut, par exemple, voyez, légiférer.
Est-ce que c'est ça la réponse du gouvernement, c'est-à-dire ça va trop vite, donc on n'y arrive
non,
pas,
c'est pas Non, pas du tout. Il faut y aller. C'est pas parce que ça va. On constate que ça va vite. Ça veut donc dire qu'il ne faut pas perdre de temps. Là, les politiques se sont saisis du sujet. Mais ensuite, il faut pouvoir.
J'ai pas dit qu'ils sont passés.
Relancer la formation et les informations. Il faut aller très aussi vite que l'on peut.
Très sincèrement, Madame la députée, moi, je vous encourage à prendre les Françaises et les Français à témoin. Il y a un certain nombre de blocages au sein de l'éducation nationale, parce que ça veut dire qu'il y a des formations nécessaires, ça veut dire qu'il y a des modules horaires qu'il faut bouger, il y en a qu'il faut réduire, et ça, c'est impossible. Lorsque vous prenez aujourd'hui l'emploi du temps d'un collégien, et j'en vois, parce que dans mon entreprise, il nous arrive d'avoir des stagiaires, etc., qu'est-ce qu'on veut pour demain? On veut une France en bonne santé, on veut réduire l'obésité, on veut savoir ce que les gamins bouffent au moment où on parle d'OGM, etc. On a une obésité qui explose, on a une éducation à l'alimentation, une éducation par rapport à l'achat pulsionnel, au moment où explose le clic achète livré, qui fait qu'on a aujourd'hui une part importante des ressources financières de nos enfants et de nos familles qui est captée par des entreprises qui ne produisent aucun emploi en France, bien là, on n'a aucune éducation à la consommation. Sur l'information, on veut des Français bien informés. Jusqu'au lycée, il n'y a quasiment aucune éducation à l'information. Et puis sur la communication, il y a des avancées, et ça ne concerne pas que le numérique, sur le savoir-être et le savoir-parler, notamment avec l'oral. Et bravo, il faut féliciter ce gouvernement pour ce qui est fait dans ce domaine qui n'a jamais été fait auparavant. Mais il faut aller plus vite et plus fort parce que nous sommes face à des changements civilisationnels et notre population, notre nation n'est pas armée. Je pense qu'il faut prendre à témoin les Françaises et les Français et dire...
Il y a 4-5 heures,
à un moment donné, on dit... Il y a 4-5 heures dans la semaine qui doivent être dédiées à ça, parce que c'est les citoyens de demain. Et pour ça,
Par le CESE, justement.
Par le CESE, oui, le Conseil des programmes.
Ça peut être une très bonne piste. Il faut aussi réfléchir. Ça veut dire que je vous rejoins. La densité des matières enseignées à nos enfants dès l'école primaire, puis ensuite au collège et au lycée, est telle que si on veut ajouter, par exemple, là va venir l'éducation à l'environnement. C'est quelque chose qui a été ajouté dans la loi climat. Il va falloir trouver le temps horaire pour le faire. Donc, les 24 heures ne sont pas extensibles. Moi, je rêve d'une loi qui puisse permettre de passer la journée de 24 à 36 heures, mais je n'ai pas gain de cause.
C'est-à-dire qu'il faut quand même leur apprendre à lire et à compter, et après,
absolument.
Éventuellement,
et donc,
effectivement,
il va falloir enlever autre chose. C'est là qu'il va falloir se mettre d'accord. Il va forcément falloir, quelque part dans les programmes, enlever quelque chose pour insérer l'éducation, notamment à l'environnement. Sur l'éducation à l'utilisation d'Internet, ça existe déjà. Il y a déjà un brevet Internet qui existe au collège. Il y a quand même une formation qui est faite. Est-elle suffisante? C'est à voir.
Othmane Nasrou.
Madame la députée,
c'est l'opposition, c'est le Parti libre et c'est aussi la région Île-de-France. Alors que fait la région Île-de-France pour ça, justement?
Je vais vous en parler, puisque nous, on a la responsabilité des lycées. Et donc, on peut discuter ici d'introduire l'éducation à l'environnement. Pourquoi pas? Mais il ne me semble pas que ce soit aujourd'hui le défi majeur à l'école. On a déjà du mal sur les fondamentaux. On a un niveau scolaire, je suis désolé de le dire comme cela,
qui baisse. À lire et à compter.
Une difficulté. Là, on est en train de parler d'un sujet qui est celui du harcèlement, donc qui ne devrait jamais arriver. Les écoles devraient être des sanctuaires pour tous les élèves. Et donc, je vous dis, nous, ce qu'on a fait, on a été très contestés pour avoir fait cela en Île-de-France, mais moi, je l'assume pleinement. On a mis en place des brigades régionales de sécurité.
C'est-à-dire
des agents physiques qui sont présents à la demande des chefs d'établissement dès qu'il y a un climat de harcèlement dans l'établissement. Des intrusions, des rixes. Et on a aujourd'hui même des phénomènes d'ultra-violence dans nos établissements. On a des élèves qui sont poignardés à l'intérieur de l'enceinte d'un certain nombre de lycées. C'est arrivé en Île-de-France.
Mais alors, vos brigades, elles passent après coup ou
alors, elles peuvent intervenir à la demande du chef d'établissement, mais parfois, elles sont positionnées en permanence dans l'établissement. Et je vous donne un exemple, parce que, y compris sur ce sujet-là, on a eu des signalements des lycéens, en l'occurrence des lycéennes, qui sont, se sont adressés à ces agents, qui se sont sentis en confiance et qui ont confié ce qui se passait à l'intérieur du lycée. Et on a même ainsi démantelé un réseau de proxénétisme. Donc moi, c'est pour ça, quand j'entends parler d'éducation à l'environnement, que ce gouvernement veut rajouter dans le programme actuel, très bien, enfin... On est assez loin quand même
Madame
de ce qui
Gente,
se passe aujourd'hui dans la réalité de nos lycées.
C'est pas incompatible.
Et cette présence humaine
que nous avons mis en place, j'ai l'impression.
L'un n'exclut pas l'autre, c'est une demande de notre jeunesse.
Je pense qu'on peut avoir une éducation à l'environnement grâce au gouvernement et bénéficier de cette éducation tout en étant en sécurité, notamment grâce aux actions de la région.
Actions sur lesquelles, je le dis, l'État, par exemple, n'a pas jugé utile de nous soutenir. Donc, je dis juste qu'il y a des priorités et qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans nos lycées, moi, je n'ai pas de problème à ce qu'on fasse de l'éducation à l'environnement. La priorité aujourd'hui, la situation dans nos lycées est bien plus dégradée que ce que j'entends là. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et parfois, j'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte de ce qui est en train de se passer dans nos écoles, et y compris, je le redis, l'absence de repères. Je pense que le pédagogisme a fait des ravages aussi. Je pense que le respect du professeur, on l'a perdu. Et tout ça, c'est un sujet.
Une première pause dans ces débats d'Europe Soir, et on revient dans un instant avec la députée LREM Anne Genetet, avec le vice-président de Libre, Othmane Nasrou, l'ancien député PS, Razi Hamadi, et Amine El Khatmi, le président du Printemps Républicain. On parle toujours de ce hashtag anti-2010. À tout de suite.
Europe Soir, Pierre de Villeneuve.
Avec à table Anne Genetet, qui est députée LREM des Français de l'étranger, porte-parole du groupe à l'Assemblée et médecin de formation. On va y venir dans quelques instants. Avec Othmane Nasrou, qui est vice-président de la région Île-de-France. Il est également le vice-président de Libre. Avec Razi Hamadi, qui a un think tank qui s'appelle News Tank City, j'arrive à le dire. Il est ancien député socialiste également. Et le président du Printemps Républicain, Amine El Khatmi. Voici pour les présentations. Et on continue à parler de ce hashtag qui, visiblement, bousille la vie d'une génération, uniquement celle née en 2010. Je le disais en préambule, qu'il soit fille, garçon, petit, grand, peu importe. Tout est parti effectivement de ce jeu Fortnite et d'une chanson également corrélée à ce jeu. Et effectivement, voilà, ces jeunes qui se font harceler bêtement, stupidement et j'allais dire gratuitement. On en a un petit peu parlé, on a vu la réponse du gouvernement et on en est venu petit à petit, avec effectivement Othmane Nasrou qui parlait juste avant la pause de ce qui a été mis en place par la région au niveau lycéen. On en vient petit à petit aux parents, c'est-à-dire au rôle des parents. Alors, est-ce que vous êtes tous d'accord, tous les quatre autour de cette table? Tout commence par les parents.
Les parents ont une responsabilité alors, pour être mère de famille. Première. C'est la première responsabilité.
Alors, comment vous faites, vous?
C'est quand même les premiers... comment je fais? Déjà, les miens, ils sont adultes. Hein, donc...
Le mode d'emploi d'Anne Genetet, c'est plus simple.
Et quand
plus
je les ai
ils n'avaient pas de portable. Quand
ils sont pas nés en 2010. Le premier portable est arrivé plus tard. Mais il y avait le souci des jeux vidéo. Et j'ai vu des amis parents qui avaient une astuce assez maline avec leurs enfants qui était de dire « Écoute, je veux bien que tu aies tant de temps d'écran, une heure de, je sais pas quoi, d'écran, mais avant, je t'oblige à faire une heure de code, d'apprendre à coder. » Et leurs trois gamins ont appris à coder de cette manière-là. Bon, c'est une idée éducative, une piste comme une autre. Mais ce que je voudrais surtout dire, c'est que c'est super compliqué d'élever des enfants. Franchement, celui qui dit que c'est facile, alors là, vraiment, je ne le croirais pas une seconde. C'est super compliqué.
Je connais pas un parent qui dit que c'est facile.
Et donc, avec les écrans qui sont arrivés à toute vitesse, les jeux, c'était entre l'époque Pac-Man et l'époque Fortnite, il s'est passé quoi? Même pas une génération, ça va à toute vitesse. Les parents,
enfin, Pac-Man et Fortnite, c'est pas exactement la même chose. Parce qu'en Razi Hamadi nous a prédit Matrix dans quelques temps.
Dis de l'un à l'autre, il s'est passé un temps, c'est l'éclair, le temps d'un éclair. Et en tant que parent, on a beaucoup de mal à suivre. Les premiers jeux qui sont arrivés pour nos enfants, avec ceux qui se disent éducatifs, on se dit on va faire une bonne action, je vais le mettre devant. Et puis après, on se rend compte que du coup, on glisse vers un temps d'écran considérable, vers des jeux dont on n'arrive pas à comprendre le contenu, parce que nous, parents, évidemment, on nous met bien en dehors de ça, pour surtout qu'on n'essaye pas trop de comprendre. Et puis les gamins qui nous disent, de toute façon, tu ne comprendras pas. Donc c'est très compliqué d'être parent. Je reviens à mon idée d'avoir une maison parentale qui puisse aider les parents à travers notamment le dialogue entre eux.
Proposition, une maison parentale.
Non, mais ça peut être intéressant. C'est vrai qu'il y a un réflexe. Moi, je ne juge pas les parents. Je sais que c'est un métier très difficile. C'est difficile d'élever des enfants. C'est vrai qu'il y a une tendance chez certains parents de pour avoir la paix. Moi, je le vois, j'ai plein d'amis qui, quand je vois le rapport qu'ils ont avec leur gosse, quand ils sont un peu fatigués, un peu énervés en fin de journée, on ouvre la tablette, on la file au petit ou à la petite, et comme
oui,
ça,
genre,
on sait.
Allez, hein, et, un peu de calme. Allez, un peu
voilà,
de calme.
Non,
allez,
et c'est ça, surtout, hein, alors là voilà. Encore, il ne faut pas juger. Et par ailleurs, c'est vrai que moi, je regardais à la télévision tout à l'heure un reportage précisément sur cette histoire, mm-hmm. et ils sont allés filmer des sixièmes dans un collège, par définition. Donc, ils étaient floutés. Ils avaient tous des smartphones, je ne vais pas citer de marque, mais la marque que tout le monde connaît bien. Ils avaient tous des smartphones dernier cri à la main. Enfin, c'était hallucinant. Des gamins de 6 ans. Alors, je ne vais pas faire mon vieux
12
con.
Ans. 12 ans, en 6e.
De 6 ans, de 12 ans, pardon.
En
de,
6e. De même,
ou alors, ouais, ils sont très,
sont très
précoces.
La génération de 2010. Mais est-ce que un enfant de 12 ans a vocation à avoir un smartphone dernier cri?
C'est une question.
Est-ce qu'il y a
vous avez une réponse à Yamadi?
Oui, oui, non, mais non.
Enfin, il n'a pas vocation.
Non, je ne crois pas que le smartphone devrait
être possible au collège. Je me souviens des téléphones qu'on avait avec le serpent, là.
Oui, oui, l'ancêtre, la préhistoire du jeu vidéo. Moi, je suis un grand fan de jeux vidéo. juste sur New Stank Citizen.
J'avais un téléphone en bakélite, hein, mais avec les ronds.
Nous, on avait le serpent, là.
Très beau, ça coûte très cher, maintenant.
Oui, oui.
Il faut 400-500 euros, hein, bon état.
Vous mettez un jeune face à un téléphone comme ça, il ne sait pas s'en servir?
Ah oui, non, mais je suis
pas s'en servir.
Ah bah oui, non.
C'est ça, il dit ça, c'est une loterie. Et moi, j'ai juste sur New Stank Cities, on est une agence d'information avec près de 20 journalistes, hein, sur les questions de ville. On est aussi think tank, on travaille avec des gens comme, dont on est très content, comme Jean-Philippe Dugouin-Clément, qui est vice-président de la région. Et donc, voilà.
Région Île-de-France.
Ouais, région Île-de-France. Donc, on est vraiment sur les questions de fond et on était sur. J'ai eu l'occasion de passer quelques temps aux États-Unis, précisément à Los Angeles, dans des clubs et différents contextes qui étaient ceux de l'économie du numérique. Et. Vous savez, les patrons de la tech, ce qu'on appelle les grands patrons de la tech, que ce soit les grands ingénieurs ou les chefs de division, ou même les patrons eux-mêmes, qui sont les fondateurs de Twitter, etc. Il y a des écoles à Los Angeles qui sont des écoles vraiment de très haut niveau, avec des pédagogies adaptées. Mais je vais vous dire une chose, il n'y a pas un seul écran.
Ouais.
Il n'y a pas un seul écran. Il n'y en a pas un
seul. Parce qu'ils sont blasés.
Ils ont banni les écrans.
Non, parce qu'ils savent ce que ça fait.
Ils savent ce que ça fait.
Voilà, donc il n'y a pas d'écran. Qu'on sache d'utiliser, qu'on ne soit pas coupé d'une réalité. Ouais. Ok, mais deuxième chose, non, l'écran, il y a un certain âge, où moi j'ai une petite de 5 ans, ça nous arrive aussi dans un cas extrême, parce qu'on n'a pas assuré, la soirée s'est prolongée, tout ça. Oui, bah oui, bah très clairement, très clairement. À un moment, le trajet en voiture, ça permet de... Mais entre ça et ce que je peux voir quelquefois, et là où c'est difficile, c'est en famille. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes principes et vous n'allez pas imposer vos principes d'éducation au reste de la famille. Mais quand vous arrivez en famille et que là, les gamins, dès 19h, ils sont sur la tablette et que c'est un dîner de famille, vous n'allez pas dire que vous éteignez tous vos tablettes parce que ma fille n'a pas de tablette et c'est une fois de temps en temps. Donc, il y a une bataille éducative et culturelle à mener là-dessus et les pouvoirs publics ont leur responsabilité, mais la première responsabilité est celle des parents.
Vous parliez tout à l'heure, Othmane Nasrou, vice-président de la région Île-de-France, du rôle que vous aviez dans les lycées. Est-ce que vous tentez, est-ce que c'est possible d'interdire le portable à l'entrée du lycée? Je crois qu'il y a eu des initiatives qui ont été faites comme ça, ça n'a jamais vraiment fonctionné.
Ça n'a jamais vraiment fonctionné, c'est très difficile à appliquer. Certains ont même envisagé qu'il y ait des brouilleurs à l'intérieur des lycées, mais ça pose des problèmes aussi pour les enseignants. Donc c'est extrêmement compliqué. Et de sécurité, en cas de problème, il faut quand même que les moyens de télécommunication continuent de fonctionner à l'intérieur du lycée. Alors on parlait beaucoup des écrans, moi justement, on a fait nous un choix audacieux, d'ailleurs qu'on pourrait nous reprocher à l'aune de ce débat, c'est que nous, on a équipé de matériel numérique tous nos lycéens en Île-de-France. Mm-hmm. Tous les lycéens qui rentrent en seconde reçoivent un matériel numérique de la région, depuis 3 ans maintenant.
C'est déjà pas pareil que la 6e.
Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que le problème, ça n'est pas simplement l'écran. C'est évidemment l'écran pour les enfants en bas âge, là-dessus on est tous d'accord, et le plus tard, c'est le mieux. À partir du collège ou du lycée, c'est quand même compliqué de fonctionner sans écran du tout. Mais la réalité, c'est qu'un écran, ça s'adapte. Il y a des outils de contrôle parental. Et la réalité, c'est que les parents, honnêtement, c'est facile de les blâmer, c'est très difficile, tout le monde le dit depuis tout à l'heure, surtout quand vous avez des enfants à partir de 12, 13, 14 ans, c'est quand même compliqué de qu'il n'y ait aucun écran ou de contrôler tout ce qu'ils font. Mais il y a des outils de contrôle parental. Et peut-être que l'éducation nationale, par exemple, pourrait, c'est pas facile, surtout on ne les connaît pas. Peut-être qu'on pourrait proposer aux parents des enfants scolarisés à partir de je sais pas, de la 6e, un kit, on leur envoie une documentation complète, des outils installés sur le téléphone. Exactement. Voilà, mais quelque chose qui soit
à l'accompagnement. Si vous prenez une boîte, vous avez un fournisseur d'accès à Internet, ils vont tous vous vendre qu'ils ont un contrôle parental. Je vous mets au défi que n'importe qui puisse mettre en place le contrôle parental proposé par son fournisseur d'accès. C'est extrêmement compliqué. Moi, je ne comprends pas leur vocabulaire. Je ne crois pas être mal câblée du cerveau, mais je ne comprends pas. Je ne sais pas faire et je ne pense pas être la seule. Donc, c'est gentil de mettre des outils à disposition. Encore faut-il savoir s'en servir.
Moi, j'ai un super contrôle parental hyper simple.
Vas-y, Amédi.
Très, très simple. C'est le code. Elle ne peut pas le déverrouiller. Problème est réglé, il n'y a pas d'accès.
Mais après, elle vous le balance contre le mur. Donc
oui,
après,
mais il y a un moment, quand ils ont un exposé à faire pour l'école en 6e, ils ont un exposé, il faut pouvoir leur donner accès.
Je dis ça, ce n'est pas une anecdote. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure de la violence qui s'est engendrée de génération en génération. Oui. Et là, aujourd'hui, il y a une violence.
Est-ce que vous avez vu l'état d'un gamin lorsqu'il a passé 2-3 heures d'affilée devant un écran?
Oui.
En général, il est à fleur de peau. Et ça, il y a des analyses, il y a des études qui existent
là-dessus.
Je suis pas
du tout en train de défendre le gamin. Ouais, ouais. Attention.
Mais non,
hein.
Mais c'est un vrai fléau. C'est, vous
avez un exposé. On lui donne un exposé à faire demain matin sur un sous-marin à propulsion nucléaire. Hein, c'est dans l'actualité.
Oui. Mauvais sujet.
Et il va aller chercher. Et il peut avoir du mal à trouver l'information. Combien de temps va-t-on lui donner pour chercher l'information sur Internet? A-t-il une approche, une éducation, un accompagnement pour dire tu vas chercher, mais voilà de quelle manière tu vas chercher, quels sont les bons sites où tu auras une vraie information. Oui. Et puis ensuite, tu t'arrêtes. Au bout de tant de temps, tu t'arrêtes. Où que tu en sois, tu t'arrêtes. C'est très compliqué de lui dire.
Je dirige le troisième cycle de l'Institut Léonard de Vinci, qui est un management, enfin qui est un MBA dans le management des transitions urbaines. On a une demi-journée de cours. On parle de gens qui ont des bacs plus 4, des bacs plus 5 ou des gens qui ont 10 ans d'expérience professionnelle. Des postes de directeur, des gens qui viennent de GRDF, Suez, etc.
Ouais, et donc,
on a une demi-journée d'apprentissage de comment être efficace dans la recherche sur Internet. Et je vous garantis que 100% d'entre eux apprennent des choses.
Ils apprennent. Et ben voilà.
Mais vous voyez qu'on est plein de paradoxes.
Othman Nasrou.
On passe notre temps à vouloir que nos jeunes soient très au point sur le numérique, qui est un outil aujourd'hui incontournable à peu près tous les métiers, j'ai envie de dire, ou de beaucoup de métiers. Et en même temps, on veut qu'ils s'éteignent les plus éloignés possible. Et le plus tard possible des écrans, et en même temps on veut qu'ils codent, en même temps il ne faut pas qu'ils touchent aux ordinateurs trop tôt, c'est extrêmement compliqué quand même, il y a un moment où il faut qu'on sache ce qu'on veut. Moi je le redis simplement, si on pouvait adresser à chaque parent d'élève, à l'entrée en 6e, une sélection d'outils clé en main pour le contrôle parental, etc., les écrans il faut les accepter, mais il faut les encadrer.
Est-ce que, et je vous parle à vous quatre, est-ce qu'on n'est pas en train de s'éloigner du débat? Est-ce que le débat c'est, parce que là on reste quand même sur le numérico-numérique, là le débat c'est pourquoi autant de violence? Ce sont des messages extrêmement violents qui passent à travers
le harcèlement n'est pas que numérique.
Mais c'est ça.
Il est également téléphonique, physique, oral.
Je vous disais, il y a quand même ce truc-là qui est sorti, j'allais dire, comme un nuage, comme un cloud, pour reprendre justement une expression numérique, et qui touche tous les enfants de 11 ans parce que quelqu'un, un jour, a décidé que... après Fortnite, il fallait justement casser la figure à tous les jeunes qui sont nés en 2010. Est-ce qu'on fait pour arrêter ça?
Vous pouvez pas l'arrêter parce qu'on parle de réalité parallèle.
C'est-à-dire que là, on est vraiment dans Matrix.
Il y a pas mal de dystopies qui sont produites tant dans la littérature de science-fiction que dans les séries fournies par les plateformes où vous avez une communauté. C'est quoi une communauté? Une communauté, c'est des affinités, c'est une identité, un langage commun, et c'est un but commun. Mmh. Donc une fois que vous avez l'affinité, une fois que vous avez le langage commun, il manque le but commun. Donc but commun, lorsque vous jouez à Fortnite toute la journée dans la vraie vie, c'est et si on s'occupait d'un tel, et si on balançait tel mot d'ordre, et si... je crois que l'important, c'est le sens de la mesure. C'est très bien de jouer à Fortnite. Moi, j'adore jouer aux jeux vidéo. D'ailleurs, je galère à me faire...
Mais il y a un risque inhérent à Fortnite. Ce que vous dites,
Fortnite, demain, ça sera autre chose. C'est pas Fortnite, bien sûr que non.
C'est-à-dire que le
je me rappelle quand j'étais plus jeune, un certain nombre de responsables politiques à l'époque, ils disaient, oui, GTA, c'est un problème. Il y a 10 000 jeux comme GTA, il y a 10 000 jeux comme Fortnite.
Ça, c'était un jeu de voiture, non, c'est ça?
GTA, on pouvait prendre une voiture et faire des choses avec la voiture, etc. C'est de la science-fiction. On ne va pas vous interdire d'aller voir un film d'horreur. On est d'accord. Il y a un certain âge pour regarder un film d'horreur.
On ne va pas tout interdire.
Au-delà de ce qui se passe en virtuel aujourd'hui, qui nous échappe et qui est très difficile à contrôler, allons dans la réalité. La réalité aujourd'hui, moi j'en appelle à tous les parents qui ont des enfants nés en 2010, nés en 6e, il faut tous les... Et merci pour faire cette émission, pour les alerter. Sachez qu'il y a ça qui se passe en ce moment. Parlez avec vos enfants. Posez-leur la question. Insistez, parce que, attention, certains enfants peuvent se rétracter, ne pas oser parler, ne pas oser le dire. Ils ont honte d'avoir été harcelés.
Il faut mettre le sujet sur la table.
Il faut mettre
le
sujet sur la table en famille le plus rapidement possible. Le ministre l'a fait dès hier. Il faut que les parents fassent au plus tard dès aujourd'hui.
Là, on n'est pas loin de l'heure du dîner. Là, voilà.
Surtout,
ce soir,
surtout,
vous parlez tous de
surtout
de
une prise de conscience nationale sur la santé publique. On est en train de construire une génération de zombies. C'est-à-dire que oui, la télé, on savait mesurer des effets sur le cerveau, qui était à la marge.
Qu'est-ce qu'on a dit sur la télévision ?
Qui était à la marge. Oui, mais qui était à la marge. Non, mais on parle de science. Là, on parle vraiment de science. Et là, on mesure des déformations dans l'évolution du cerveau à l'adolescence qui sont irrattrapables. Ce que je dis, c'est... Je ne dis pas qu'on est en train de créer une génération de lobotomisés. Ce n'est pas ce que je dis. Mais on n'en est pas loin.
Raison de plus pour en parler à table ce soir. À table, ici, en tout cas, Amine El-Khatmi, Razia Madi, Othmane Nasrou et Anne Genté. On revient dans un instant et on va parler des soignants non vaccinés. À tout de suite.
Europe Soir, Pierre de Villeneuve.
Avec autour de cette table Amine El-Khatmi, Razia Madi, Othmane Nasrou et Anne Genté. Depuis mercredi, c'est une autre chanson. Tous les soignants qui ne veulent toujours pas se faire vacciner sont sanctionnés. La plupart du temps, c'est une rupture de contrat. Alors, ces soignants, combien sont-ils? Combien ça représente sur le territoire? Quelle est la situation, Victor Chabert?
Eh bien Pierre, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a communiqué un premier bilan de 3000 soignants suspendus et quelques dizaines seulement de démissions. C'est relativement peu sur les 2 700 000 personnels concernés par l'obligation vaccinale. Mais dans certains hôpitaux, cela peut entraîner des perturbations, comme à Montélimar, où la direction doit se résoudre à déprogrammer des interventions non urgentes, faute de soignants disponibles. Un gros point noir, les Antilles et le CHU de Guadeloupe, où la campagne de vaccination connaît des difficultés à cause des oppositions locales et de la défiance envers les autorités sanitaires. 75% du personnel non médical n'est pas vacciné. Le directeur général du CHU déclare être dans l'impossibilité de respecter la loi et a décidé de ne pas appliquer les sanctions pour continuer à faire tourner l'hôpital. Du côté des autorités, selon Santé publique France, le taux de soignants ayant reçu au moins une dose est de 88% en hôpital et en EHPAD et de 94% chez les libéraux.
Et ces soignants tombés sous le couperet de la sanction, nous les avons rencontrés. Maximilien Carlier leur a tendu le micro à Armentières.
C'est la pression qu'on subit depuis qu'il y a eu l'annonce. Quand il y a les chefs qui nous demandent, quand il faut présenter, quand ceci. Enfin, la pression même des collègues hein, qui nous demandent comment on va faire, pourquoi on ne le fait pas, qu'à un moment donné il faut le faire.
J'ai toujours été fidèle au poste, quoi. Et là, sur la base d'une loi, on ne m'autorise plus à venir travailler. Alors que je vous le dis, je suis en bonne santé, tout va bien. Mais on m'interdit de travailler, c'est-à-dire que quelque part on me met dehors, quoi.
On m'impose de trouver autre chose, en fait. Parce qu'on ne peut pas vivre sans salaire.
On a un enfant, on a une maison, on a, comme tout le monde, on a une vie, quoi. Donc il y a des milliards de questions qui se posent, quoi.
Voilà le désarroi de ces soignants des Hauts-de-France. À l'opposé, au sud, Stéphane Burgat les a rencontrés à Marseille. Et c'était pendant leur dernière manif anti-pass ce mardi, c'est-à-dire 24 heures avant cette fameuse date couperet.
Aujourd'hui, on nous propose un vaccin dont la troisième étape de vérification n'est pas finie. Il est toujours en observation. On aura les réponses en 2022, voire 2023. Donc moi, je veux bien un vaccin, mais qui ait été autorisé au niveau des autorisations de mise sur le marché, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Moi, je ne veux pas être un cobaye, vraiment.
À partir de demain, effectivement, moi, je vais quitter mon poste parce que le chantage actuel, pour moi, n'a pas lieu d'être. Il nous oblige à faire un vaccin qui ne nous protège pas des contaminations. Enfin, si le rapport de force continue auprès de l'État, je vais changer de formation. Et il y aura un soignant en moins en France.
Voilà, le désarroi d'un côté, l'obligation sanitaire de l'autre. Comment leur répondre à ces soignants, vous qui êtes médecin, Anne Genté?
J'ai envie de leur dire, est-ce qu'ils prendraient un avion dont le pilote de ligne n'aurait pas eu la vue contrôlée? Évidemment que non. Donc je ne comprends pas.
C'est aussi simple que ça?
Je ne comprends pas. Est-ce qu'ils connaissent ces soignants? Donc j'entends que là, il y avait des infirmières que vous avez interrogées. Le mécanisme de la vaccination contre la rougeole, il se rappelle il y a 3 ans? Quand on n'avait pas assez d'enfants vaccinés et la rougeole qui revenait, un vaccin, ça protège des formes graves. Parfois, ça peut protéger ou ralentir la contamination. Mais il faut, encore faut-il, beaucoup de personnes vaccinées. Et là, aujourd'hui, tant mieux si on a plus de 80% de la population de plus de 12 ans en France qui est vaccinée. Mais la solution, elle sera mondiale. Donc tant qu'on n'a pas le reste du monde vacciné, on est toujours exposé et fragile.
Emmanuel Macron, qui utilise également les réseaux sociaux, vient de publier une vidéo dans laquelle il dit que le cap symbolique des 50 millions de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid a été atteint. Voilà.
Et c'est une excellente chose. Il faut qu'on soit tous vaccinés le plus vite possible.
Qu'est-ce que vous répondez, vous, médecin, à cette infirmière de Marseille
responsabilité.
Qui dit on n'a pas encore assez de recul face
faux.
Au vaccin.
Enfin, attendez, alors,
on va avoir en 2022, c'est ce qu'elle dit.
Pour développer, je ne vais pas faire un cours de pharmacologie 23, et de mise sur le marché d'un médicament. On a trois étapes. On développe un bon produit sur quelques centaines, quelques milliers, quelques dizaines de milliers. C'est la phase 3. La phase 3, elle a été faite en entier, contrairement à ce qui a été dit.
Donc, ce qu'elle dit n'est pas juste.
C'est faux. Le vaccin, les vaccins disponibles aujourd'hui ont tous été étudiés sur une phase 3 complète. Aucune autorisation. Il existe parfois pour certains produits en cancérologie, par exemple. Je suis certaine qu'elles auraient un de ces cancers aujourd'hui ou un de leurs enfants aurait un cancer rare. On leur dirait qu'il faut tel produit qui a une autorisation temporaire d'utilisation, qui n'a pas eu sa phase 3 complète. On leur dirait que c'est le seul moyen d'avoir un petit espoir pour votre gamin. Je suis sûre qu'ils le prendraient.
Évidemment.
Je suis sûre qu'ils le prendraient.
Évidemment.
Donc ce vaccin, ces vaccins qui ont tous eu leur phase 3 complète, qui ont été entièrement validés et qui ont été donnés à plus d'un milliard et demi de personnes sur Terre, dire qu'on n'a pas de recul, mais enfin, c'est pas sérieux, ils sont irresponsables.
Je peux vous dire, je témoigne du fait que la députée LREM, Anne Gente, est généralement très très mesurée, elle est toujours très calme, là, j'avoue que mais c'est monté
raison.
Un petit peu...
Voilà.
Amine El Khatmi.
Elle a raison, enfin, moi je souscris totalement à ce que vous
elle
venez
elle est moins
de...
calme, vous avez remarqué.
Ce que vous venez de dire, mais parce qu'on on entend des propos qui nous font, qui peuvent nous faire sortir de nos gonds.
Vous êtes en colère ?
Non, mais d'abord, il y a un argument que je trouve insupportable, c'est... oui, mais c'est mon libre arbitre, c'est ma liberté individuelle. Bah non,
en fait, c'est pas le cas.
Non, mais c'est ce qu'ils disent en général. C'est mon libre arbitre, ma liberté individuelle. Bah non, lorsque ta liberté individuelle peut avoir des conséquences sur autrui, il n'y a plus de liberté individuelle. Il y a une liberté collective par ailleurs. Il y a une responsabilité collective par ailleurs. Les soignants ont une responsabilité éthique, c'est-à-dire que là, c'est pas les infirmières, les personnels soignants sont en contact de personnes qui sont en fragilité, qui ont des comorbidités, qui sont dans les établissements, dans les EHPAD.
Qui vont recevoir bientôt une troisième dose dans les EHPAD.
Du fait de leur âge, forcément, on l'a compris, en situation de fragilité par rapport à des gens plus jeunes. Et donc, on a par ailleurs un quasi-consensus scientifique sur le fait qu'une personne vaccinée transmet beaucoup moins de virus qu'une personne non vaccinée. Et donc oui, lorsque vous êtes en contact de personnes fragiles ou qui sont susceptibles de développer des formes graves de la maladie, vous avez une responsabilité éthique de protéger ces personnes-là. Et comme nul n'est irremplaçable, si vous ne voulez pas effectivement vous soumettre à ces règles, vous faites autre chose. Voilà, donc, je le dis de manière moins diplomatique
pas de vaccin,
que la députée.
Pas de vaccin, Amine, je vous pose la question. Pas de vaccin, plus de boulot, pour vous, c'est logique.
Oui, pas de vaccin, absolument. Plus de boulot. Mais elle a raison, c'est un pilote d'avion qui aurait un œil en moins ou un chauffeur de bus qui dirait « je veux rouler à contresens sur l'autoroute », on lui dirait « monsieur, vous descendez tout de suite et vous arrêtez, vous ne travaillez pas ». Ou un chirurgien qui viendrait vouloir opérer sans s'être lavé les mains ou en fumant une clope dans le bloc opératoire, on lui dirait non. Il y a des règles dans chaque boulot, il y a des règles, il y a des normes, il y a des exigences. Parfois elles sont contraignantes, parfois elles sont lourdes à assumer, mais si vous ne voulez pas les assumer, les respecter... Vous faites autre chose.
Demandez à Thomas Pesquet,
président de Libre.
On est tous d'accord sur l'utilité des vaccins, sur le fait que ce débat, moi j'ai confiance dans les autorités sanitaires de notre pays, la balance bénéfice-risque, elle est très claire, il n'y a pas de sujet. Mais après, je m'interroge toujours sur la manière de convaincre les gens. Parce que je veux bien qu'ici, sur ce plateau, on s'énerve tous, c'est-à-dire que c'est un scandale, que des professionnels de santé refusent de se faire vacciner. Évidemment qu'en particulier pour un professionnel de santé, on ne peut pas prendre le risque qu'il infecte une personne vulnérable, par exemple, qui vient se faire soigner. C'est totalement impensable. Et donc, cette obligation-là, elle est légitime. Mais je m'interroge toujours sur la manière dont on fait passer ce message. Et à chaque fois qu'on a traité les réfractaires par le mépris ou par les accusations, à chaque fois...
Là, c'est
plutôt...
du mépris ?
Non, je ne parle pas de là spécialement. Mais on a eu parfois, de la part du gouvernement, quelques déclarations qui, à mon avis, ont plutôt renforcé la défiance.
Sur quel sujet, Othmane Nasrallah ?
Mais sur les vaccins. Sur les vaccins.
Non,
sur le pass sanitaire. Moi, je
on
dis simplement,
vaccins, là,
ce qui me manque, par exemple, si, parce qu'à un moment, quand il y a eu des troubles, on a renvoyé tous les réfractaires aux fauteurs de troubles. Je pense que c'est une erreur. Je pense que parmi ceux qui doutent, il y en a qui doutent. Il y en a qui doutent de bonne foi. Ils ont tort. Mais il y en a qui doutent de bonne foi. Il faut aller les chercher.
Et moi,
mais non, parce que par exemple, pendant la crise sanitaire, il y avait ces belles conférences de presse que je trouvais très bien, avec le Premier ministre, le ministre de la Santé, avec une belle présentation, avec des données chiffrées, sourcées. Et je pense que cet exercice-là, il manque un petit peu.
Ah bon.
Il a manqué sur la question des vaccins.
Vous avez reproché qu'il était trop présent. Alors, il faut savoir ce que vous voulez.
Qui était trop présent ?
Que ces conférences de presse étaient exagérées.
Qui a reproché ça ?
Je ne sais pas si vous, personnellement, vous l'avez fait. Enfin, les oppositions à M. Macron largement lâchées sur le sujet.
Je ne vous fais pas le reproche de toutes les erreurs du gouvernement, sinon
on
y passerait l'ensemble de l'émission.
Nous avons toujours fait la distinction entre ceux,
entre
ceux qui sont de bonne foi contre le vaccin avec des craintes, vers lesquels nous sommes allés, la démarche aller vers. Et quand vraiment vous discutez, des chefs de services hospitaliers l'ont dit, en ont témoigné, quand on va vers ces personnes-là, qu'on prend le temps d'expliquer, en plus il y a une dynamique de groupe qui peut se mettre en place. place. Ça a vraiment porté ses fruits et on a toujours distingué ceux-là de ceux qui sont par dogmatisme, par idéologie anti-vax. Ça, c'est autre chose.
Razie Abadi, News Tank Cities.
Moi, j'ai plutôt envie d'exprimer un message d'optimisme parce que on a bien battu ça en France, mais là, c'est quand même un record mondial.
On aime bien battre sa coupe, c'est ce que vous avez dit.
Ça. Oui, c'est ça. Ouais, on aime bien ça. Oui. On aime bien en France, au quotidien. On n'est pas assez ci, on n'est pas assez là. Bon, les pays comparables, personne ne fait aussi bien. En proportion de la population, c'est un record mondial. On peut être fier de nous, c'est collectivement. Pour une fois, il y a plein de raisons d'être fier de nous, évidemment. Mais allons-y, bravo, cocorico, c'est super. C'est super, c'est-à-dire que
c'est
plus...
super quoi ?
Mais c'est super, mais plus on est vacciné et moins il y a de chances de nouveaux confinements, y compris partiels.
Où voulez-vous en venir ?
Et plus on peut atteindre l'immunité collective. Oui. Et puis il a fallu mobiliser un certain nombre d'énergie. Pourquoi d'autres pays n'en sont pas là ? Pourquoi d'autres pays, y compris membres de l'OCDE ou des pays qui font partie du G20, sont à 20% de population vaccinée ? Parce que il n'y a pas eu forcément toute la logistique, parce que ils n'ont pas été au rendez-vous des vaccins. L'Europe là a été très utile.
Certains pays ont mis beaucoup de temps à contribuer à COVAX, contrairement à la France.
Tout à fait. Donc et en plus, donc bravo, voilà, donc c'est super, bravo
qu'est-ce
pour ceux
que
qui sont vaccinés.
Ce
que je veux dire, c'est que
qu'est-ce que vous dites à ces soignants que vous avez entendus, Razie Ahmed ?
Moi, je dis qu'on est dans un pays. De 67 millions d'habitants. Le but, c'est qu'on avance ensemble. Puis des fois, il y a des gens, ils ne veulent pas avancer. Donc on essaie de les convaincre, continue. Bah, s'ils ne veulent pas avancer, ils restent au bord de la route. Mais à un moment donné, on ne peut pas faire le bonheur à la place des gens. Leur liberté de ne pas se faire vacciner ne l'emporte pas sur la liberté des patients et des gens malades de ne pas se faire contaminer.
D'être protégé, mais oui. Oui, et pourtant, ils continuent à descendre dans la rue, ils sont là.
Ils ont le droit, on est en République, c'est la France de la France, c'est une démocratie.
Non, ils sont moins nombreux qu'avant, mais
toute petite
minorité. Ils ne sont pas très nombreux tout court. Là, on est en train de comparer 140 000 personnes, même si on prenait les tout débuts à 280 000, je veux bien prendre le premier chiffre de 280 000, on est à 280 000 versus 50 millions qui ont leur première dose. Ça, on est bien sur des plus de 12 ans. La population des plus de 12 ans, c'est 57 millions d'habitants. Il en reste 7 millions qui n'ont pas encore eu leur première dose.
Oui.
Donc 240 000 versus 7 millions, ça va.
Non, mais bien sûr, en proportion, je l'ai dit tout à l'heure en préambule, pour l'instant, ceux qui ont eu des ruptures de contrat dans les soignants, c'est 0,1%. Donc, mais ça reste, en soi,
après, c'est inquiétant.
3 000 personnes
après, c'est inquiétant.
Qui ont perdu leur boulot parce qu'ils n'ont pas mais vu en tant que personne.
Pas nécessairement perdu à ce stade. Le contrat est suspendu. Je trouve que c'est très bien parce que ça leur donne encore la possibilité de se faire vacciner et de reprendre leur travail.
Alors, si c'est provisoire, vous avez entendu ce père de famille qui a dit j'ai un crédit, j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai des enfants.
Sans choix. Là, c'est une question de responsabilité individuelle. On vit en société, on vit en collectivité, il y a des règles.
Là, on parle quand même de personnel hospitalier, c'est-à-dire que c'est aussi de la responsabilité des pouvoirs publics de protéger les malades.
Enfin, c'est-à-dire
c'est-à-dire vous avez des personnes âgées, on sait que sur 8 à 9 personnes sur 10 qui aujourd'hui sont hospitalisées ne sont pas vaccinées, mais il y en a une sur 10 qui était vaccinée. Donc, si vous avez des personnes qui sont vaccinées et qui l'attrapent, et qui font partie de ces 10% qui peuvent l'attraper alors qu'ils sont vaccinés à cause des médecins qui, eux, ne sont pas vaccinés, qui on va accuser ? Qui on va les mettre devant la Cour de justice de la République,
la
le ministre de la Santé ? On va lui dire, pourquoi vous n'avez pas pris des mesures pour empêcher qu'on soit contaminé ?
Exactement.
Mon grand-père, sur la méthode, vous qui êtes médecin, Anne Genté, comment est-ce que, effectivement, tout à l'heure, Othmane Nasrou a soulevé le fait que parfois, le gouvernement a été autoritaire sur certains points. Est-ce que sur la méthode, vous qui êtes médecin, est-ce que, par exemple, à d'autres médecins dont vous êtes collègue ou ami, peut-être, vous leur dites,
Moi, je ne comprends pas le sujet parce que tous soignants que nous sommes, médecins, sages-femmes, infirmiers, infirmières, etc., aides-soignants, on a une obligation vaccinale qui existe déjà. Quand on prend notre boulot, on ne peut pas commencer à travailler, ça n'est pas possible, c'est interdit de commencer à exercer si on n'a pas notre vaccination contre l'hépatite B à jour, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. Et personne n'a critiqué ça, personne ne l'a remis en question.
Parce que ce sont des vaccins qui sont plus anciens et on a plus de recul. Enfin, c'est l'argument qui revient le plus souvent.
Moi, j'en reviens aux preuves aujourd'hui. Nous avons des 1,5 milliard de personnes sur Terre qui ont été vaccinées. A priori, ça fonctionne, puisqu'on voit que le nombre de formes graves a considérablement diminué et que ceux qui sont hospitalisés sont des personnes non vaccinées,
Amine,
principalement.
Amine, c'est pas 3 milliards d'ailleurs ?
Ah, c'est peut-être 3 milliards, j'ai peut-être en retard. Ouais, j'ai peut-être encore un métro de retard, ouais, ça c'est possible.
C'est 3 milliards de personnes vaccinées.
Après,
personnes
c'est pas
vaccinées.
Assez. Ouais. Enfin, c'est
et 50 l'État, millions donc en France. L'État a, je rebondis sur ce que disait Razi, m'a dit à très juste titre, imaginez, vous êtes la famille d'un homme ou d'une femme d'un certain âge qui doit passer à l'hôpital pour un contrôle de diabète, par exemple. Les diabétiques dans notre pays, moi, mon père est diabétique, il passe une semaine tous les 4 mois environ parce qu'on lui fait toute une batterie d'analyses. Bon, la personne arrive et l'infirmière qui lui sert le repas le soir lui transmet le Covid. Voilà, ça se termine mal. Bah, vers qui va se tourner la famille de la personne qui va...
Moi, j'ai des cas autour de moi, de personnes âgées qui ont été contaminées par des personnels soignants, j'en ai.
Ben voilà.
Et qui sont décédés.
Est-ce que ces personnels soignants se posent la question, celle que vous venez de poser justement?
Non, mais à un moment, la famille est fondée à se tourner vers l'État en disant, attendez, on vous a confié notre proche, notre parent qui était en parfaite santé, en tout cas qui n'avait pas le Covid, qui venait pour autre chose, qui serait sorti de là une semaine après parfaitement, qui en est mort. Et c'est un personnel de l'hôpital qui l'a contaminé. Et donc, vous devez en répondre. Voilà, et l'État devra en répondre.
Il y a des procès qui sont faits pour infection nosocomiale. C'est une infection nosocomiale.
Non, mais bien sûr.
Une infection nosocomiale, c'est donc une infection qu'on attrape en milieu hospitalier.
On l'a souvent sur cette antenne. Karim Zeribi, qui vient ici, par exemple, sa grand-mère est décédée à l'hôpital d'Avignon il y a quelques mois. Et il m'autorisera à le raconter. Il l'a raconté à l'antenne lui-même. Et il est avéré qu'elle a attrapé le Covid à l'hôpital. Voilà. Et elle en est décédée.
Oui.
Voilà.
Donc, il y a des associations qui se sont fondées, notamment avec l'actrice et directrice de théâtre Stéphanie Bataille,
qui a perdu son père,
qui est allée pour, soin totalement bénin. Qui demandait justement des comptes.
On peut comprendre face à ça qu'en effet, il y ait une obligation vaccinale pour les soignants qui soit mise en place. C'est tout à fait normal. Et il est tout à fait anormal que ces soignants ne le comprennent pas. Qu'ils se retrouvent un jour avec un procès sur le dos parce qu'on les aura directement mis en cause pour la contamination d'un patient qui en serait décédé.
Je vais être totalement candide en vous posant cette question à Angente, mais vous voulez pas leur parler justement à tous ces personnels soignants?
Je pense que j'ai plein de confrères qui sont très compétents, aussi compétents, voire plus compétents que moi pour leur parler.
Donc vous rejetez
patate
chaude, comme on dit.
Non, pas du tout. Je pourrais le faire, mais il faudrait que je sois dans l'environnement qui va bien. Ouais. Je n'exerce pas aujourd'hui à l'hôpital.
Est-ce que c'est pas à vous d'initier cela? Est-ce que c'est pas au gouvernement d'initier
un grand ramdam
en disant voilà, écoutez, on s'adresse à vous parce que
moi je veux bien me mettre au service de qui jugera que je peux être utile, mais je
c'est pas le rôle des députés du gouvernement.
Voilà. Non, mais vous avez les chefs de service. Vous avez les chefs de service dans la plupart des hôpitaux, dans les centres hospitaliers, dans l'ensemble des sites où infirmiers et personnel hospitalier, docteurs officiers. Tout le monde a fait des réunions d'information avant l'été, lorsque le sujet est monté, etc. Maintenant, le deuxième élément, c'est que vous avez des gens qui ont cru, c'est important de le dire, parce qu'ils ont cru que, bon, on va se mettre en congé maladie, par exemple. On va s'absenter, on va déposer. Il y en a qui ont déposé un congé son seul en disant ça va prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois qu'on va revenir. Il y aura plus l'obligation vaccinale. Donc déjà la première chose à dire c'est que non, il y aura encore l'obligation vaccinale. Ça a été rappelé par le ministre de la Santé que celle-ci s'inscrit dans la durée. Maintenant tout à l'heure autant je pouvais me réjouir pour dire formidable quand même on arrive à faire 50 millions, mais c'est vrai qu'il en reste quand même 7 millions. Et on se dit que dans un pays où il est aussi facile de se faire vacciner
aujourd'hui,
où c'est gratuit
à chaque coin de rue,
qu'il y en ait encore 7 millions, c'est un peu inquiétant sur l'état de la société.
Otman Dasso, comment est-ce qu'on fait
pour
convaincre
ces 7 millions pour reprendre
c'est là où précisément, il ne suffit pas simplement de se dire c'est un scandale, c'est pas normal. Et encore une fois, on est tous d'accord sur l'obligation vaccinale des personnels soignants en responsabilité. On a soutenu d'ailleurs le gouvernement là-dessus, j'ai pas de difficulté. La question c'est comment on fait pour convaincre les récalcitrants. Parce que 3 000...
Il faut peut-être arrêter de se poser la question, il faudrait peut-être agir. Que fait la région Île-de-France en l'occurrence?
Écoutez, vous êtes le deuxième vice-président. Exactement, je vais vous dire ce qu'on fait justement. Et c'était, on l'a fait au moment où le ton montait avec le gouvernement. Je vais vous dire précisément, on a fait des opérations de vaccination dans les îles de loisirs. C'était très pragmatique, personne n'y avait pensé. Et donc, tous les week-ends, on a vacciné des milliers de personnes qui passaient par là, qui n'étaient pas parties en vacances parce qu'elles n'en avaient pas forcément les moyens.
Aujourd'hui, et qui en loisirs là pour aller se disaient, vacciner.
Écoutez, on en est là. Mais on en est là parce que là, franchement,
des gens,
exactement, pour aller les chercher vraiment individuellement. Et parfois, les gens passent et se disent, tiens, et puis là, ils se renseignent. Puis on dit, venez, c'est tout de suite. Et ensuite, c'est réglé, vous êtes tranquille.
Vous aviez un centre de vaccination sur une aire d'autoroute.
pendant
vous voulez
les
dire
vacances.
Qu'il y a encore des parce gens, que... d'après votre témoignage, qui se disent « Ah bah tiens, je vais aller me faire vacciner parce qu'il y a la vaccination juste en dessous
de chez moi. » Alors, ce n'est pas les récalcitrants les plus durs, mais ce sont des gens qui sont hésitants, des gens qui attendent de voir le retour sur ce vaccin. Aujourd'hui, on a un recul suffisant. Je peux comprendre qu'il y ait des hésitations au tout début, mais moi, aujourd'hui, voilà. Donc, il faut aller les chercher.
À la campagne, il y a encore des gens qui ne sont pas au courant. J'entendais un témoignage tout à l'heure, des gens qui sont très loin de la vaccination, très loin du problème, qui disent « Mais attendez, moi, je suis agriculteur, je suis retraité agriculteur, je ne vois jamais personne, j'en ai pas besoin. » Il y en a encore.
Changement de discours et changement de sujet. Après le journal de 19h, on parlera de Christiane Taubira et de sa sortie, la France qui humilie. Et Éric Zemmour, premier meeting à Toulon. Restez avec nous sur Europe 1.